Bonjour Stevenson Herbert Wallo, bonjour à tous. Dans le magazine Justice de ce jour, nous faisons le bilan de la première session criminelle de la Cour d'appel de Bangui de cette année.
Le tribunal, après en avoir délibéré, vous relaxe.
Maître, calmez-vous.
Ce tribunal ne va pas considérer ces faits-là.
Le droit à l'antenne. Le magazine Justice sur Radio Ndekeluka. Wasinga tifango mbanga nando da fonono Ndekeluka.
Ouverte le 3 août 2026, la première session criminelle de la Cour d'appel de Bangui s'est achevée cette semaine. Au total, une trentaine d'accusés ont été condamnés à des peines allant de 5 ans de prison ferme aux travaux forcés à perpétuité. Trois dossiers ont été renvoyés à la prochaine session, tandis qu'un seul accusé a été acquitté au bénéfice de doute. Dans cette émission, nous revenons en détail sur cette session criminelle. Et pour en parler, nous recevons Jean Vidal Damas, procureur général près la Cour d'appel de Bangui. Mais bien avant de le rencontrer, nous revenons d'abord sur quelques actualités judiciaires qui ont eu lieu cette semaine dans le pays.
Le droit à l'antenne. Le magazine Justice sur Radio Ndekeluka.
Les audiences dans l'affaire Gain ont repris cette semaine et se poursuivent jusqu'au 11 septembre prochain devant la Cour pénale spéciale. La reprise de débat a été marquée par les plaidoiries de la partie civile. Maître Samuel Dangassa a demandé à la Cour de prononcer la peine la plus lourde contre les accusés Philemon Kaina, François Boibanda et Edmond Beina, ainsi que contre Jean Barra, actuellement en fuite. De son côté, Dieudonné Gomito a sollicité son acquittement. Écoutons Samuel Dangassa, avocat de la partie civile.
J'ai demandé à ce que la main de la Cour soit lourde, qu'aucune circonstance atténuante ne soit accordée aux accusés, compte tenu de la gravité des faits à eux reprochés. Les témoins qui sont passés devant la Cour nous ont tous édifiés. Ils ont reconnu la participation de ces différents accusés-là à ces infractions. Donc il ne fait l'ombre d'aucun doute que ceux-ci ont participé effectivement à ces infractions-là et ils doivent en répondre. Les parties civiles, elles sont vraiment très nombreuses. Parce qu'au vu des témoignages, au vu des pièces du dossier, à la lumière des faits, nous avons estimé que la participation de l'accusé Gomito à ces infractions n'a pas été vraiment effective. Du moins, il était convalescent au moment des faits et il a tenté cette médiation-là de faire ramener l'accusé Beina vainement à la raison. Gomito, il n'était pas armé, c'est un civil, il ne pouvait pas s'affronter pendant longtemps avec un certain Beina qui était trop zélé, trop fort à l'époque des faits. C'est pourquoi nous avons demandé à la Cour de le mettre hors cause.
Mardi, le parquet spécial a requis la prison à perpétuité pour les accusés Edmond Beina et Jean Barra en leur qualité de chef militaire et 30 ans de prison ferme pour les accusés Philemon Kaina alias CB et François Boibanda alias Balère. Cependant, tout comme les avocats de la partie civile, le parquet spécial demande l'acquittement pur et simple de Dieudonné Gomito. Sur la question, suivons Alain Wabi Bekai, procureur spécial au micro de Ondia Villa Bissayon.
Non seulement Beina avait la qualité chef de Balaka, mais il avait en plus de cela la qualité de chef militaire. Et sans cette qualité, il a été secondé par Barra. Donc il fallait leur donner la peine la plus lourde prévue par la loi pénale. Et Dieudonné Gomito, dans toute la procédure, il a apparu qu'il avait joué un rôle qui ne réunissait pas toutes les conditions pour le déclarer coupable. En ce sens qu'il n'a fait que tempérer la situation. Donc il a apparu qu'il n'y avait pas de raison de croire qu'il avait participé effectivement à ces infractions. Et là, nous sommes constants dans nos positions parce que même devant les juges d'instruction, nous avons estimé qu'il fallait l'élargir de fin de la poursuite. Mais on n'a pas été suivi par les juges d'instruction qui l'ont renvoyé devant la juridiction de jugement. Mais à l'audience, les témoignages recueillis, les dépositions faites par ci et par là n'ont pas permis d'établir suffisamment ses responsabilités. C'est pourquoi nous avons demandé son acquittement pur et simple.
Rappelons que l'affaire dite Gain concerne les accusés poursuivis pour crimes contre l'humanité, notamment des meurtres, des déportations forcées, des violences physiques et des pillages. des faits commis en mars 2014 dans les localités de Guène, Gazi et Diomo. Et puis la mission internationale Mananata apporte son soutien aux détenus de la maison d'arrêt de Boussombélé dans l'Ombilapoko. Cette organisation religieuse leur a distribué des repas, des médicaments, du savon et des kits d'hygiène. Des précisions de notre correspondant Onisefor Andagor Lesen.
Cette assistance psychosociale intervient à un moment où les prisonniers vivent dans des conditions précaires, car le crédit alimentaire alloué ne permet pas de nourrir convenablement ces détenus. Franquin Wilfried Ngofio, régisseur en chef de la maison d'arrêt, apprécie ces gestes qu'il qualifie de salutaires.
L'objectif de la mission était d'accompagner spirituellement, moralement et surtout socialement les personnes privées de liberté. Durant les deux jours, un repas amélioré avait été préparé à l'endroit des détenus, ce que les détenus n'ont pas l'habitude de manger. Les détenus étaient aussi appuyé par le kit de nettoyage, à savoir les savons morceaux, les savons liquides, les serpillères, homo et autres. Et aussi les produits médicaux de premier soin. Je tiens vraiment à lancer ce cri d'alarme à tout le monde qui m'écoute à ce moment que vraiment il faut mener des actions en faveur des détenus, surtout les détenus de Boussemili en particulier, issus de la RCA également en général.
Selon le responsable de la mission internationale Mananata, Martins Meda Zanfio, ce geste vise à témoigner de la compassion envers ces détenus.
Quand un détenu est malade, il a besoin de médicaments et aussi de la nourriture. Alors, toutes ces choses, il faut leur apporter pour les aider dans leur incarcération, pour leur permettre d'être aussi dans la joie comme nous qui sommes libres.
Cet appui intervient, selon le responsable de l'organisation, après ceux apportés aux prisonniers de Ngaragba et de Mbaïki dans la Lubaï. Onésifor Andagor Lesséné, Boussembélé, Radio Ndekeluka.
Le droit à l'antenne. Le magazine Justice sur Radio Ndekeluka.
Comme annoncé, la première session criminelle de la Cour d'appel de Bangui a pris fin cette semaine. Plusieurs affaires ont été traitées par les juges de la Cour criminelle. Lundi dernier, deux affaires de détournement de deniers publics et de commentaires ont été renvoyées à la prochaine session criminelle. Écoutons à cet effet les délibérations de ces procès prononcés par Thierry Joachim Pessiré, premier président de la Cour d'appel de Bangui.
Délibéré sur la demande de renvoi sollicitée par le conseil de l'accusé. Donc la Cour pèse en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement à l'égard des parties en matière criminelle en dernier ressort, avec le concours du juré et à la majorité de voix, entendu que suivant l'ordonnance numéro 061-26 du doyen des juges d'instruction en date du 11 mai 2026, l'accusé Maya Arnaud, né le 15 juin 1999 à Bangui, conducteur de taxi-moto, domicilié au quartier Sapeke, a été renvoyé devant la cour criminelle de Bangui afin de répondre des faits de coups et blessures ayant entraîné la mort sur la personne de Makapanyen Hippolyte. Crime prévu et puni par l'article 70 du code pénal. Tandis qu'après lecture de l'ordonnance de renvoi, le conseil de l'accusé, Maya Arnaud, a sollicité de la cour le renvoi de l'affaire de la cause à la prochaine session criminelle au motif que l'accusé présenterait des troubles mentaux suivant la conclusion et le rapport d'expertise psychiatrique établi par Dr Ngremende Guignol Aimé, médecin commandant psychiatre au centre universitaire hospitalier de Bangui.
Il est maintenant temps de recevoir notre invité du jour, Jean-Vidal Damas, procureur général près la cour d'appel de Bangui. Monsieur Jean-Vidal Damas, bonjour.
Bonjour.
Vous venez de clôturer la première session criminelle de la cour d'appel de Bangui. Première question, monsieur, en termes de bilan, que peut-on retenir de cette session?
Merci beaucoup de m'avoir donné l'occasion de dresser le bilan de la première session de notre ressort qui vient de s'achever. Parlant du bilan, nous pouvons dire en très peu de mots que le bilan nous semble satisfait du fait que nos objectifs ont été atteints, peut-être à 90%, puisque nous avons enrôlé en tout 27 dossiers. 24 ont été jugés régulièrement. 3 dossiers ont été renvoyés à la prochaine session. Et sur environ 40 accusés qui étaient poursuivis, entre autres pour assassinat, meurtre, coup mortel, viol, association de malfaiteurs, vol à main armée, détournement de données publiques, nous estimons que des peines qui nous semblent correctes ont été prononcé à l'encontre de ces accusés, et même pas pour aller dans les détails, mais nous pouvons vous dire que en ce qui concerne les statistiques des peines, nous avons 2 peines de travaux forcés à perpétuité. Nous avons des peines de 10 à 20 ans qui ont été prononcées, qui est au nombre de 10. Nous avons aussi une décision d'acquittement et nous avons une peine moins de 10 ans qui a été prononcée. Donc nous avons compris que toute la gamme des peines, disons, prévues par la loi a été observée, et c'est donc une satisfaction pour la Cour d'appel à travers ces quelques résultats que je viens de vous énoncer.
Il s'agit d'une satisfaction pour la Cour d'appel de Bangui, mais on voit cette année l'organisation de la première session criminelle a pris un peu du retard, monsieur. Qu'est-ce qui explique cette situation?
Bien entendu, la loi prévoit en cette matière 2 sessions criminelles par an, et avec la possibilité d'organiser 1 ou 2 sessions supplémentaires si le besoin se fait sentir et si les moyens y sont. Malheureusement, cette année, on a démarré relativement en retard, juste parce qu'il y avait des difficultés conjoncturelles dues à la disponibilité des fonds qui devaient permettre l'organisation de cette session. Mais tout compte fait, on a quand même rattrapé ce retard avec la première session qui est organisée après la moitié de l'année. Mais nous sommes convaincus que nous allons tout faire pour rattraper ce retard et se conformer à la prescription en cette matière qui prévoit 2 sessions ou même 3 sessions par an. Et sans aller dans les détails, nous sommes en train de préparer une deuxième session qui pourrait avoir lieu, je crois, au début du mois d'octobre. Et nous sommes, les moyens sont déjà disponibles, si on peut vous le dire, mais cette fois-ci, je ne pense pas que ça soit encore, il y aura de retard, mais nous sommes en train de régler tous les détails pour que immédiatement on puisse commencer les préparatifs, et nous espérons qu'au début du mois d'octobre, nous allons démarrer avec la deuxième session. Et peut-être, si la Providence le permet, nous pourrons peut-être organiser une session supplémentaire comme le prévoit la loi.
Lors de la cérémonie officielle de clôture de cette session, de cette première session de 2026, vous avez déploré quelques difficultés rencontrées lors de la tenue des audiences. C'est quoi vraiment le problème?
Bon, globalement, nous sommes satisfaits du résultat, mais vous comprenez que l'œuvre humaine a toujours des failles. Et quand bien même nous avons eu à féliciter nos collègues des cabinets d'instruction, des parquets, mais il y a quand même quelques problèmes que nous avons pu déceler, notamment la rigueur dans la tenue des procès-verbaux, en commençant par les OPJ et en commençant aussi par les services du parquet, qui de fois ont des difficultés pour qualifier normalement les faits. Et nous avons aussi constaté qu'il y a beaucoup de problèmes dans la gestion des procès-verbaux. Certains procès-verbaux ne sont pas signés. Et donc, il y a des dispositions du code de procédure pénale qui réglementent la gestion de ces procès-verbaux. Et beaucoup d'avocats ont souligné ces irrégularités. Et nous avons pris acte de ça. Et nous pensons que c'est vrai, l'essentiel, c'est d'aboutir à juger des dossiers, à examiner, à condamner des gens. Mais il faudrait que tout se passe dans les règles que prévoit la loi, pour que lorsqu'on juge quelqu'un, il va falloir qu'on constate qu'il a été jugé au cours d'un procès équitable où toute les règles de la défense ont été observées. C'est à cette occasion que nous avons cru bon, en ce qui nous concerne au niveau du parquet général, d'adresser des instructions sous forme d'observation à tous les procureurs de ressort sur la base de ce que nous avons constaté de façon brute lors de cette session criminelle. Et nous l'avons fait dans une sorte de lettre circulaire que nous avons adressé, puisque nous avons profité aussi de l'occasion pour le dire directement, mais nous allons leur parvenir ces circulaires pour que ça devienne une sorte de canevas de travail pour leur permettre en tout cas de réorienter leurs prestations et de veiller à ce que les gens qui sont sous leur responsabilité, notamment les OPJ et même les greffiers qui, des fois, les aident dans la tenue des PV, puissent se conformer à la loi et qu'on arrive à améliorer la qualité des dossiers que nous amenons à l'audience. Voilà un peu pourquoi nous avons soulevé ces quelques cas.
Comme vous venez de le dire, vous aviez adressé une lettre circulaire au procureur de la République de votre ressort, de la cour d'appel de Bangui, mais seule une lettre circulaire ne suffit pas, il n'y a pas de sanction.
Je pense que nous sommes dans un cadre purement professionnel et la loi prévoit en cette matière une lettre circulaire sous forme de plan de travail. Mais les sanctions, on ne parle pas de sanctions lorsqu'il s'agit de la non-observation des dispositions d'un texte. Les sanctions, je pense que les juges, tout comme les OPJ, sont passibles de sanctions prévues par la loi, mais il faut les cas spécifiques. Mais en ce qui concerne des manquements dans le traitement des dossiers, je pense que la sanction, c'est la nullité des actes concernés. Mais nous ne pouvons pas prendre peut-être la méconnaissance des textes lorsque ça n'a pas été fait de façon volontaire pour favoriser ou peut-être avoir un gain personnel, engager une sanction sur la base de responsabilité personnelle du personnel considéré. Mais nous pensons que la lettre circulaire et les observations, c'est pour le rappeler à la règle qui gouverne la gestion des procès-verbaux et aussi pour leur demander plus de rigueur dans leur travail quotidien. Voilà un peu. Mais lorsqu'il s'agira de sanctions, les sanctions peuvent tomber lorsqu'il y a des manquements qui sont constatés dans l'exercice de leurs fonctions. Et là, ça relève d'une autre rubrique. Nous ne pouvons pas parler de sanctions professionnelles dans la gestion des procès-verbaux.
Dans un mois, vous allez organiser la deuxième session criminelle de la Cour d'appel de Bangui pour juger les criminels. Si aujourd'hui, vous avez un message à lancer à l'endroit de la population, par rapport à l'organisation de ces sessions, ça sera lequel?
Si j'ai un message à l'endroit de la population, c'est de demander à la population de faire confiance en sa justice, parce que nous sommes un pays post-conflit, même si le conflit est en train d'être oublié. Mais tout le problème, on a l'habitude dans ce pays de jeter du discrédit sur la justice pour un oui ou pour un non. Mais il faudrait que la population suive un peu le rythme avec lequel la justice est rendue, parce que la justice est rendue au nom du peuple. Mais il faudrait que ce peuple-là s'approprie la matière et aussi qu'elle cherche à comprendre exactement qu'est-ce qui se passe lorsque des audiences ne se tiennent pas. Est-ce que c'est la faute des magistrats? Est-ce que lorsque des dossiers ne sont pas jugés, est-ce que c'est la faute uniquement du personnel judiciaire? Mais c'est un ensemble de tout et donc tout le monde doit contribuer à ce que la justice soit rendue. Lorsque le procureur, par exemple, le procureur de la République, le procureur général se lève pour demander de peine, c'est pas pour son propre plaisir, mais c'est pour défendre les intérêts de la société. Mais il faudrait qu'on sache aussi que nous sommes compris et que nous sommes protégés par cette même population. Parce que ce qui se passe, c'est comme si la justice est une entité à part et que la justice travaille contre l'intérêt de la population. Or, lorsque la justice est bien comprise, lorsqu'elle est bien rendue, ça règle tous les problèmes de la société. C'est le rempart du citoyen. Mais il faudrait que cette population s'approprie cette justice et la soutienne afin que les acteurs qui sont là, qui ne travaillent pas pour leur intérêt personnel, puissent aussi se sentir à l'aise lorsqu'ils sont dans la situation de devoir rendre justice.
Okay. Monsieur Jean Vidal Damas, Radio Ndekeluka, vous remercie.
C'est à moi de vous remercier pour l'occasion que vous nous avez offerte.
Vous souhaitez poser une question à nos experts? Laissez-nous un vocal ou écrivez-nous par WhatsApp au 74 53 22 53 ou 76 06 40 44. Ala yeunda na awako de kwatiye ndaliti akwa singa ala zaligotia la nando WhatsApp na amolongo 74 53 22 53 Ngana 76 06 40 44.
Dans la seconde partie de notre émission, où nous répondons à l'une de vos questions et où nous expliquons un terme juridique, dans cet entretien, c'est le terme ordonnance de renvoi qui nous retient. Pour plus d'explications, notre expert Christian Dja, chercheur en droit, nous donne des précisions.
En droit, une ordonnance peut désigner d'abord deux choses différentes, mais complètement différentes. Premièrement, une ordonnance peut désigner un acte pris par le président de la République qui est le chef de l'exécutif dans le domaine réservé à la loi. La source de ce que je dis peut être recherchée dans l'article 65 alinéa 11 de la Constitution, n'est-ce pas, du 30 août 2023. Secondement, une ordonnance alors, du point de vue judiciaire, peut désigner un acte pris par un juge seul dans son cabinet. Eh bien, si vous en avez convenance, vous aurez compris que c'est le second sens qui se rapproche le plus de notre sujet. Qu'est-ce qu'on entend par ordonnance de renvoi? Tenez, par ordonnance de renvoi, il faut entendre une décision de justice qui émane du juge d'instruction à la fin de l'information judiciaire. Cette ordonnance tend à renvoyer, comme son nom l'indique, l'inculpé devant la formation du jugement. En réalité, cette ordonnance épouse une double conséquence. La première, elle permet justement de clôturer définitivement l'information judiciaire entre-temps ouverte par le juge d'instruction. Secondement, elle permet d'officialiser les poursuites et saisir la formation du jugement, notamment la cour criminelle, eh bien, si les faits allégués sont constitutifs de crime. Alors, si vous regardez l'article 119 du Code de procédure pénale, eh bien, le législateur a fait mention de ce que le juge d'instruction doit notifier dans les 24 heures l'ordonnance de renvoi à l'inculpé et à son conseil. Aussi, il doit, c'est-à-dire le juge d'instruction, il doit leur faire mention de ce qu'il dispose, n'est-ce pas, d'un délai de 48 heures pour faire appel de cette ordonnance de renvoi devant la chambre d'accusation, qui est alors une chambre de la cour d'appel. Voici ce qu'on entend en droit par l'ordonnance de renvoi.
Merci à vous Christian Dja, mais restez avec nous pour répondre à la question de Nathan depuis quartier cité Jean 23 qui veut savoir s'il y a une différence entre un acte juridique et un fait juridique.
Écoutez, j'ai bien envie de dire que l'acte juridique et le fait juridique entretiennent aussi bien une relation différentielle de degré que de nature. Fondamentalement, il y a une grosse différence qu'il faut faire entre l'acte juridique et le fait juridique qui sont tout de même des deux grandes institutions en droit. Tenez, l'acte juridique est une manifestation de volonté dont les conséquences juridiques sont recherchées par les parties. Dit autrement, l'acte juridique est un acte de volonté spécialement accompli par une personne pour produire des effets de droit. En réalité, en droit, il existe trois types d'acteurs juridiques. Premièrement, il y a un acte juridique qu'on appelle acte juridique unilatéral. Il est dit unilatéral lorsque il est l'émanation d'une seule volonté, laquelle volonté produit des effets de droit. Exemple, le testament. Exemple, l'acte de reconnaissance de paternité. Voilà ce qu'on appelle acte juridique unilatéral. L'acte juridique peut aussi être bilatéral. Il est dit bilatéral lorsqu'il est le résultat d'une convention ou d'un accord qui unit plusieurs personnes. Cet accord ou cette convention-là est destiné à produire des effets de droit. Exemple, le contrat de vente. Exemple, le contrat de bail. Enfin, l'acte juridique est dit collectif lorsque celui-ci est le résultat d'un ensemble de volontés unies par une communauté d'intérêts. J'ai même envie de dire de volontés exprimées sur un objet commun, un même objet. On peut donner l'exemple d'un acte juridique collectif. On peut donner comme exemple les collectifs, les conventions collectives. Eh bien, les conventions collectives des travailleurs sont un exemple type d'un acte juridique collectif. Voici ce qu'on entend par acte juridique avec ses différentes variantes. À rebours, un fait juridique est un événement volontaire ou involontaire dont les conséquences juridiques ne sont pas connues. On en distingue alors deux. Il y a le délit et il y a le quasi-délit. Le délit est alors le fait volontaire illicite qui consiste à causer un dommage à autrui avec l'intention de le causer. Exemple, le vol de moto. Ça, c'est un délit qui est une variante d'un fait juridique. Enfin, le quasi-délit est un fait illicite n'est-ce pas, susceptible de produire des effets de droit. Enfin, il peut être un événement, mais cet événement peut être soit volontaire ou involontaire. Exemple, le meurtre, l'accident. Voici l'exemple type d'un quasi-délit. Et donc, le quasi-délit, disais-je, est une variante de ce qu'on entend par fait juridique. On en sort en disant que, à coup sûr, il existe une distinction entre fait juridique et acte juridique.
C'est la fin de la version française de ce magazine Justice. Merci de votre fidélité d'écoute. Merci également à vous, Diane Stéphanie Bokula, pour votre appui technique. À vous également, Ondia Villa-Bissayo, pour votre appui à la réalisation de cette émission. À vous, très chers auditeurs, nous nous retrouvons à partir de 7h26 pour la version Sango. Mais vous pouvez aussi retrouver cette émission sur notre site www.radiondekiluka.org.